Alors, cette exposition qui s'intitule « Par-delà les mille et une nuits » et qui raconte l'histoire des orientalismes, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace à travers mille et un destins d'objets. Et comme on en a l'habitude au Louvre-Lens, eh bien, on présente cette histoire sur le temps long, c'est-à-dire qu'on parcourra ce monde depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Également, on parcourra les géographies de Paris à Ispahan, de Constantinople à Venise, Alger, Tanger, l'Alhambra, le Caire. Et aussi, on va regarder ces objets qui sont aussi bien des métaux incrustés, des cristaux de roche travaillés, des peintures, des photographies. On va regarder ces objets dans la manière dont ils ont été compris, parfois mal compris, dans leur légende. Et donc avec cette idée de croiser les récits historiques et imaginaires, d'où cette appellation « Par-delà les mille et une nuits », puisque les mille et une nuits deviennent, qui sont des histoires séculaires, deviennent en Europe et en France particulièrement célèbres à partir de leur traduction au XVIIIe siècle par un Picard qui s'appelle Antoine Galland. Simplement, dans cette histoire de fascination, cette histoire des orientalismes, parfois on réduit cette question des orientalismes à la peinture du 19e siècle. En fait, au contraire, c'est de montrer qu'à partir du moment où il y a des échanges, eh bien, il y a des créations qui s'inspirent. Et parmi les artistes qui s'inspirent, il y a aussi des grands noms, ceux du théâtre, qui est particulièrement présent dans l'exposition, Molière, les fables de La Fontaine, mais aussi des grands artistes peintres qui vont de Ingres à Delacroix, également Matisse. Et quand on parle de Delacroix, il faut savoir aussi qu'on parle aussi des collections de Delacroix qui voyagent au Maroc et en Algérie. Et petite anecdote régionale que je trouve assez incroyable, on connaît par exemple très bien les représentations et la société ottomane à partir du XVIIIe siècle grâce à un valenciennois, un peintre valenciennois qui s'appelle Van de Moor et qui fait partie des rares artistes et même des rares personnes à s'installer pour plusieurs années à Constantinople. Et donc grâce à ces tableaux qui sont ensuite diffusés en estampes, c'est aussi une des sources des compréhensions des pays qu'on a appelés d'Orient. Alors en fait, on a toujours à la fois des échanges et de l'imaginaire. Ça, c'est quelque chose d'assez fascinant. On s'aperçoit que, par exemple, le Moyen-Âge, c'est un moment en fait, où il y a une grande globalisation des échanges. Et donc, ça veut dire qu'on a des objets qui arrivent parce qu'on ne sait pas les créer en Europe et qu'on les trouve incroyables, les métaux incrustés, la manière de tailler, de faire des verres. Mais tout de suite, ces objets, ils sont tellement incroyables qu'on leur invente des légendes exceptionnelles. Ils auraient été les cadeaux de l'ambassade entre Charlemagne et Haroun al-Rachid, ce qui ne fonctionne pas puisqu'ils apparaissent deux siècles plus tard. Mais ils sont tellement importants qu'ils ne peuvent être qu'extraordinaires. Tout comme l'un des grands chefs-d'œuvre du Louvre qui nous est prêté exceptionnellement ici au Louvre-Lens, le baptistère de Saint-Louis. Et ce bassin, il est tellement exceptionnel dans ses incrustations, dans ses décors, qu'on est persuadé qu'il a pu être le baptistère, donc le lieu du baptême de Saint-Louis, ce qu'il n'est pas. Mais par contre, on y croit tellement qu'on va y baptiser le roi Louis XIII.
C'est une production qui est plutôt artisanale ou plutôt mystique ?
Alors, en fait, c'est très important de dire que nous, aujourd'hui, et notamment au XXe siècle, on a parfois classifié les objets entre qu'est-ce qui est artisanal, qu'est-ce qui est beaux-arts. En fait, il faut s'apercevoir qu'en fait, tous ces objets, il n'y a pas de hiérarchie de création entre eux. La distinction qu'on pourrait faire, elle est plutôt une distinction que nous, on a faite ensuite en classifiant les œuvres dans les musées. Et ici, au Louvre-Lens, justement, on a le goût de ne pas hiérarchiser les objets, puisqu'en fait, il n'y a pas de différenciation pour eux chez leurs créateurs.
Mais l'idée, c'était de vendre quand même.
Alors, en fait, il y a beaucoup d'objets qui arrivent soit par des échanges, soit par des ventes, soit par des cadeaux diplomatiques. Il y a vraiment toute une série de manières de trouver ces objets, la vente comme le cadeau, comme le souvenir aussi. Alors, on a notamment deux œuvres majeures du département des arts de l'islam du Louvre qui nous prêtent 99 œuvres en tout, mais notamment qui nous prêtent le fameux bassin dit du baptistère de Saint-Louis, mais aussi le lion de Manzón, qui est une des œuvres les plus connues, créée sûrement en Espagne, en tout cas c'est là où il est trouvé, qui peut s'actionner. On ne peut pas l'actionner dans l'exposition, bien sûr, mais avec un travail du métal exceptionnel. Et c'est une œuvre vraiment emblématique. Et on a aussi des prêts exceptionnels du département des peintures, des arts graphiques, des objets d'art du Louvre et du musée de la Croix, qui est aussi une composante du musée du Louvre. Et on a des prêts aussi, comme vous savez, souvent exceptionnels de tous nos collègues, musée d'Orsay, Musset, musée du Quai Branly. Des prêts aussi assez exceptionnels du musée des Invalides, qui conserve beaucoup de collections royales, donc de cadeaux diplomatiques. asiatiques, notamment des carquois. On a aussi cet harnachement de cheval mamelouk exceptionnel qui viendrait d'un champ de bataille lors de la campagne d'Égypte de Napoléon. Ça, c'est incroyable, cet harnachement de cheval décoré. Donc ça, c'est aussi une des pièces qui, à mon avis, va vraiment surprendre le public, y compris le jeune public. Et on a des ensembles aussi de peintures exceptionnelles. On a vraiment eu aussi, et je le signale parce qu'on n'en montre pas toujours, également des instruments de musique, des très beaux instruments de musique, des épinettes et aussi des costumes de scène. Très régulièrement en exposition, vous avez des costumes de scène. On aime aussi que toutes ces œuvres s'incarnent. C'est aussi pour ça qu'on a des costumes de scène, des références aussi au théâtre, à l'opéra, au cinéma. Et de voir aussi combien toute cette histoire, elle imprègne aussi notre culture populaire, notamment lorsque l'on parle de la question du cabaret.
Il y a des couleurs aussi qui dominent hein, dans les tableaux. On retrouve aussi des couleurs dominantes dans la scénographie.
On a invité pour cette scénographie, on sait que nos visiteurs, nos visiteuses ont le goût de la très belle scénographie, deux personnes venant du théâtre et de l'opéra, notamment conseillés par la Comédie Française. Vous savez qu'on a un beau partenariat cette année avec la Comédie Française. Donc Philippine Ordinaire et Bertrand Houdin qui ont imaginé cette scénographie d'abord à partir des Grammaires des Formes d'Owen Jones. Et ici, dans cette entrée, vous voyez qu'on rentre dans une atmosphère rouge et ensuite on voit les formes se construire, notamment avec tout un travail sur le noir et blanc avec quelques touches de couleurs. Et nous avons aussi tout un ensemble de salles de musique également dans ce projet. Les arts qui fascinent, les techniques qui fascinent en Europe venues des pays d'Orient, c'est notamment toutes les techniques du métal, du verre, le verre dit de Charlemagne, qui non plus n'est pas de Charlemagne, mais qui est ciselé de manière incroyable. Et donc ces techniques, elles fascinent. Et donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a la lumière, que cette question de la lumière, elle est primordiale. Et on la retrouve aussi chez un certain nombre d'artistes contemporains, comme Sara Wadou, puisqu'on a une quinzaine d'artistes contemporains qui présentent leurs travaux, qui dépassent la question des orientalismes, qui aussi écrivent une nouvelle page de l'histoire, qui aussi comblent les trous de l'histoire et qui sont présentés chacun, non pas uniquement à la fin de l'exposition, mais à l'endroit de leur sujet de recherche, comme des éclairages sur des parties de l'histoire qu'on redécouvrirait. Je pense notamment à l'œuvre de Wael Shaoki, qui est une histoire des croisades racontée en marionnettes, des marionnettes créées lors d'une résidence avec des centoniers près de Marseille. Le message principal de cette exposition, c'est un parcours historique. Quand je dis un parcours historique, c'est vraiment raconter l'histoire des objets, l'histoire des artistes, et à partir de là, d'une certaine manière, comprendre la transparence de comment ces objets, nous les regardons, comment ils sont arrivés au musée. Je dirais que des choses qui m'intéressent particulièrement, c'est que je pense que tous ces objets, ils portent en eux l'histoire de tous ceux qui les ont regardés. Et donc, d'un seul coup, je pense que c'est une découverte exceptionnelle. Ces objets, on ne les connaît pas forcément, pourtant ils font partie de notre culture, et aussi de voir également comment on peut dépasser les stéréotypes qui ont parfois accompagné la question de l'orientalisme, et de voir aussi comment les artistes le dépassent. Alors en tout cas, je ne sais pas s'il y a un message, mais en tout cas il y a un appel à venir découvrir ces créations exceptionnelles, découvrir aussi le travail de ces artistes, et aussi à écrire sa propre histoire.
Donc ces objets, ils ont voyagé, ils ont fait rêver aussi.
Oui, il y a vraiment une histoire d'échange. Ça, je pense que c'est très important parce qu'on s'aperçoit vraiment que les échanges, ils sont présents dès le Moyen-Âge. Évidemment, ils s'exacerbent à partir du 19e siècle avec le développement des transports. Mais c'est vrai que ce rêve, cette fascination, cette admiration, elle est présente tout au long de l'histoire. Je pense par exemple aussi à des figures qui apparaissent à un moment comme des figures stéréotypées, notamment la danseuse du ventre, le charmeur de serpents, qui sont vraiment des figures qui deviennent des archétypes dans un certain monde du spectacle et qui en fait sont aussi des danses qui, elles, en fait, sont des danses vraiment exceptionnelles avec un vrai art, et la manière dont on se les réapproprie par-delà les clichés qu'ils ont pu parfois susciter. On raconte l'histoire, on raconte les objets. Et c'est vrai que c'est assez drôle, c'est qu'on montre aussi parfois comment on construit les objets en ayant montré aussi des objets qu'on a restaurés. Et en les restaurant, on s'est aperçu qu'en fait, ils étaient complètement disparates et qu'ils avaient été entièrement recréés. Et c'est vrai qu'on voit aussi la beauté des objets réparés dans le travail de Kader Atia. On voit ces assiettes cassées qui, en fait, deviennent un objet de beauté tout simplement avec cet art qui lui permet de les réparer par cette magnifique peinture de cire rouge.
Dans l'exposition, il y a aussi des artistes notamment des femmes qui sont venues présenter leur travail, pas forcément en confrontation, en complément.
Oui, tout à fait. Ces artistes, ils nous éclairent différents aspects de l'histoire. Je pense que vraiment, on est dans l'idée de montrer le travail du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, et ils nous éclairent l'histoire différemment. Et aussi, ils proposent, et c'est ça que je trouve aussi incroyable, d'autres formes de type d'art. Hein. On a aussi ces peintures incroyables de Nazanin Pouyandé ou de Ryan Yasminé. On a aussi ces incroyables travaux sur tissu. Et donc, il y a vraiment, oui, cette idée d'éclairage très fort.